Alors, frères et sœurs, ce matin, je vous invite tout de même à partir en voyage. Alors, pas en avion, pas en train, pas en voiture, mais en bateau. Alors, il faut imaginer qu'il fait grand soleil, que nous embarquons donc sur un navire en direction de la pleine mer. Le ciel est bleu, la mer est calme, pas de mal de mer aujourd'hui pour personne. Quel moment agréable, non ? Qui vient avec moi ? Théo ? C'est un petit peu un air de vacances. Maintenant, alors qu'on profite justement de ce moment, d'un seul coup, le ciel s'assombrit. Et il y a une tempête qui s'abat sur nous. Et nous n'avions aucun moyen de le prévoir. Alors comment réagirions-nous ? Est-ce qu'on serait confiant dans la solidité du bateau, dans la dextérité et l'habileté du commandant de bord pour diriger le navire jusqu'au port ? Sûrement au début en tout cas. Mais voilà que cette tempête n'est pas juste un coup de vent, n'est pas juste des petits frémissements, une petite agitation de la mer. Les vagues commencent à grandir, le bateau tangue de plus en plus. Alors est-ce qu'on va continuer à être confiant, à être rassuré ? Même que les vagues sont tellement hautes maintenant qu'elles s'écrasent sur le pont. Que faire ? Vers qui pouvons-nous nous tourner ? Alors cette histoire, cette petite histoire imagée, que je vous raconte est semblable à celle vécue par d'autres hommes il y a bien longtemps et qui nous est relatée dans la parole de Dieu dans Matthieu, au chapitre 8, versets 23 à 27. Qui est un passage, je pense, que tout le monde connaît. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Et ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Alors, avant d'essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner dans ce petit passage, ce que nous pouvons noter, ce qui est formidable, je ne m'en étais jamais rendu compte, mais en préparant ce message, j'ai vu que dans l'Ancien Testament, au psaume 107, versets 23 à 29, on pouvait déjà lire « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. » N'est-ce pas déjà une preuve de la puissance de Dieu ? Parce que le passage qu'on vient de lire dans l'Ancien Testament, en fait, est la même chose que ce qui s'est passé pour Jésus et ses disciples dans la barque. Tout était déjà annoncé avant. Et donc si on revient maintenant dans le livre de Matthieu, nous voyons donc Jésus, ses disciples, qui montent dans une barque. Ils ont décidé de traverser la mer, qui était le lac de Galilée. Alors pourquoi traverser par la mer ? Le texte ne le dit pas, mais on peut imaginer que ça leur permettrait d'arriver plus vite à la prochaine destination, plutôt que de contourner toute la mer et tout le lac à pied, parce que à ce temps-là, il n'y avait pas de voiture non plus, c'était vraiment à pied. C'était plus rapide, donc, et surtout moins fatigant aussi. Et surtout après une journée où Jésus avait encore prêché toute la journée, donc il devait aussi être fatigué. D'autant plus que parmi les 12 disciples, il faut se rappeler que 5 d'entre eux étaient des pêcheurs. Donc ils avaient l'habitude de la mer, ils étaient habitués de naviguer. Donc il y avait Simon-Pierre, Jacques, fils de Zébédée, Jean, André et Philippe. 5 hommes donc habitués de la mer. Donc la mer, ils connaissent, pas de danger normalement. Donc ces hommes suivirent Jésus. Alors que veut dire suivre ? Suivre, c'est pas simplement voilà, parler avec Jésus la journée, penser à lui de temps en temps, mais ça signifie bien qu'il faut rester près de lui et l'accompagner justement là où il va. Et là, justement, il décide donc de le suivre en s'embarquant avec lui dans la en s'embarquant avec lui. Et s'embarquer avec Jésus, c'est aussi accepter justement à l'avance tous les renoncements, toutes les épreuves qui ne vont pas manquer justement de se présenter. Et donc là, justement, le temps se gâte. Et pas qu'un peu. Il ne s'agissait pas d'une imprudence de Jésus et des disciples qui seraient partis alors que le ciel était déjà gris, hein, comme dans l'exemple que je donnais au début du message. Non, rien ne pouvait le prévoir, rien n'annonçait ce qui allait se passer. Alors, pour la petite anecdote, il faut savoir que le lac de Galilée est une mer justement intérieure qui fait à peu près 20 km par 10 km, qui est située environ, en fait, à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer, avec beaucoup de montagnes autour. Et cette situation géographique, les caractéristiques qui l'entourent, qui l'environnent justement, font que encore aujourd'hui, il y a souvent des vents forts qui arrivent soudainement des montagnes voisines, sans prévenir. Et ces vents peuvent déclencher des vagues à plus de 6 mètres de haut. Donc, je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer, mais c'est vraiment un danger qui était bien réel. Et si on regarde d'ailleurs le même passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, verset 23, on peut lire, voilà, c'est la même chose, mais il est marqué quand même, « Un tourbillon fondit sur le lac, la barque était couverte par les flots. » Donc il n'y avait aucune échappatoire. Et même si, encore une fois, 40% des disciples étaient des marins aguerris, que pouvaient-ils faire pour combattre cette tempête ? Rien. À les entendre même dans le texte, je pense qu'ils ont dû avoir l'impression que c'était la fin, que leur vie allait peut-être arriver même à son terme. Mais alors, quelle est cette tempête qui s'abat sur cette barque ? Alors, cette tempête, frères et sœurs, fait référence à ce qui peut se produire aussi dans nos vies, dans nos propres vies, à ce qui peut s'abattre sur nous. Celle-ci représente les épreuves, les difficultés, les souffrances que nous pouvons aussi rencontrer pendant notre vie sur Terre. Et bien souvent, comme là, ces épreuves, ces souffrances arrivent sans prévenir. Car, il faut l'avouer, hein, si on pouvait prévoir, si on pouvait savoir qu'une épreuve allait arriver, si on allait savoir qu'on allait souffrir demain, est-ce qu'on ne ferait pas tout pour l'éviter ? Est-ce qu'on ne s'arrangerait pas pour l'éviter ? Mais on ne peut pas. Et si on vit justement ces périodes difficiles, c'est bien parce qu'on n'en a pas le choix, comme les disciples avec cette tempête. Ils ne l'ont pas choisie, mais ils doivent la vivre. Donc ces épreuves arrivent de toutes parts, nous prennent par surprise, sont toutes différentes, mais elles ont un point commun, elles sont toutes violentes. Il peut s'agir de tempêtes de doute, de chagrin, de maladie, de tentation, de pauvreté, encore bien d'autres. Et dans certaines situations, nous pouvons arriver à nous en sortir nous-mêmes par nos propres forces, sur nos propres capacités, mais parfois, nos propres forces ne sont pas suffisantes. Et bien souvent même. Et malgré tous nos efforts, tous les moyens mis en œuvre, nous ne trouvons aucune solution à nos problèmes. La vie de Job aussi, qui nous est racontée dans la parole de Dieu, dans le livre justement de Job, illustre bien aussi cela. Job était un homme très bon, très pieux, très aimé de Dieu, qui avait plusieurs enfants. Il possédait des terres, de nombreux serviteurs, il était très riche. Mais un jour, sans qu'il comprenne pourquoi, une série de malheurs s'est abattue sur lui. Encore une fois, lui aussi ne l'avait pas vu venir, et son argent ne lui a alors servi à rien. Ses serviteurs n'ont pas pu l'aider, et il n'a pu trouver aucun secours dans les moyens terrestres qu'il avait à sa disposition. Ces exemples nous montrent aussi encore une fois que tout le monde est concerné, pas juste les pauvres, pas juste les riches, pas juste tout le monde. C'est pas parce qu'on a des facilités, de l'expérience que nous serons épargnés et que nous ne serons pas atteints par les épreuves ou les souffrances. Et Job s'est alors posé les questions suivantes. Mais pourquoi lui ? Pourquoi tout cela ? Est-ce que Dieu l'avait abandonné ? Et tout comme les disciples ont sûrement dû s'interroger aussi sur cette barque, mais pourquoi cette tempête ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi l'avoir suivi ? Est-ce que Dieu, Jésus, va nous abandonner ici aussi à notre sort? Alors abandonner est peut-être un mot qui peut sembler un peu fort, mais si on revient au texte, on peut lire une petite chose, alors que cette tempête frappe la barque vraiment de plein fouet, eh bien Jésus dormait. Alors en réfléchissant à ce que pouvaient dire ces deux mots, cette toute petite phrase, je me suis fait la remarque qu'en dormant, c'était un peu comme si Jésus était présent, il est dans la barque, et en même temps, il est en dehors de la scène, il ne vit pas la tempête. Et que Jésus puisse dormir dans de telles conditions, c'est aussi l'indication donc, d'un homme sûrement qui était fort fatigué de sa journée, hein, mais aussi et surtout de la tranquillité et de la paix qui marque un homme qui vit près de Dieu. Il y a un verset dans le psaume 4, verset 9, qui dit « Dans la paix, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter toi seul, Seigneur, dans la confiance. » D'un autre côté, que Jésus dorme comme cela, ça peut aussi laisser penser que donc rien ne le dérangeait dans cette situation. Un peu comme si donc, il ne faisait pas attention à ce qui l'environnait, à ce qui se passait. C'est pour ça que je parle un peu de la sensation d'être abandonné. Parce que quand quelqu'un ne prête pas attention à ce qui l'environne, aux personnes qui l'entourent, est-ce qu'on le voit comme quelqu'un qui va penser à nous? Comme quelqu'un qui a de la compassion pour nous? Comme quelqu'un qui veut nous aider? Qui a envie de nous aider? Pas sûr. Et quand nous sommes dans la douleur, la souffrance, la détresse, il semble étrange que Dieu justement permette à ces situations de continuer. Tout comme ici, parce qu'au départ, donc, il ne bouge pas, il dort. Et donc en de tels moments, c'est vrai, difficile aussi d'accueillir le désir de paix que Jésus veut pour nous, quand nous sommes alors préoccupés par l'épreuve à affronter. Pourtant, je vous l'affirme encore ce matin, Jésus vous aime, Jésus veut et prend soin de vous. Il veut votre bien, il vous connaît, il sait tout et il peut tout. Mais alors, encore une fois, pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi reste-t-il là à dormir alors que les disciples sont en danger? Pourquoi de la même façon ne réagit-il pas alors que notre propre vie s'écroule peut-être pour nous aujourd'hui? On entend souvent autour de nous aussi, mais pourquoi Dieu est-il si indifférent à ce qui se passe dans le monde? Pourquoi Dieu laisse-t-il un tel événement, telle guerre? Pourquoi tant de morts par la maladie, encore une fois par la guerre? Est-ce que ce n'est pas injuste? Est-ce que Jésus n'est pas injuste? Est-ce qu'il ne pourrait pas intervenir là maintenant tout de suite? Alors, j'ai eu l'occasion de regarder un film aussi, il y a quelque temps maintenant, qui s'appelait « Dieu n'est pas mort ». Vous avez sûrement peut-être entendu parler. Et il y avait un des dialogues vers la fin du film qui m'avait un peu marqué aussi. Alors, c'était un échange entre un fils, qui était adulte, hein, et sa mère. Donc la mère était croyante, le fils non. Elle était cette femme atteinte d'une maladie incurable, un peu Alzheimer en quelque sorte, en tout cas une démence un peu. Et alors que son fils, lui, vivait une belle vie, pleine de réussite, de succès, de l'argent, en tout cas d'un point de vue humain, voilà, il avait vraiment du succès. Et cette femme venait de dire à son fils, Dieu est bon. Et lui, il lui a posé cette question, mais Dieu est bon? Tu as la maladie, la démence, alors que moi, ma vie est parfaite. La réponse de cette femme a été celle-ci. Parfois, le diable permet aux gens de vivre une vie libre d'épreuves, de difficultés, car il ne veut pas qu'ils se tournent vers Dieu. Leur péché est comme une cellule de prison, mis à part qu'elle est ou semble belle et confortable aujourd'hui. Et il semble n'y avoir aucune raison de vouloir en sortir. La porte est grande ouverte. Mais jusqu'au jour où le temps sera écoulé et où la porte claquera, se fermera et d'un seul coup il sera trop tard pour en sortir. Alors sur cette barque, les disciples ont fini par faire la seule chose qu'ils pouvaient encore tenter à ce moment-là, il n'y avait plus aucune issue. Ils se sont approchés de Jésus et ils l'ont réveillé. Et ils lui ont demandé son aide. Le Seigneur Jésus était avec eux. Mais les disciples ont dû réaliser quand même deux actions pour qu'il intervienne pleinement. Ils ont dû s'approcher de lui et lui demander son aide. Dieu a déjà fait le premier pas vers nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Oui, Dieu a envoyé son Fils pour tout le monde, pour chacun de nous ici présents. Mais pour que ce cadeau soit juste, véritable, ça nécessite tout de même une action de notre part. Il est écrit « afin que quiconque croit ». Il nous faut nous approcher de lui, il nous faut croire et il nous faut nous humilier. Il nous faut reconnaître notre péché, lui demander son pardon pour nos vies. Sans cela, ça signifierait que le péché pourrait cohabiter avec le Seigneur, ce qui est impossible. Il est le péché et ne peut le supporter. Alors nous devons reconnaître notre faiblesse, que nous ne pouvons rien sans lui, que nous ne pouvons vivre sans lui. Et il en est de même dans les épreuves. Il fallait que les disciples reconnaissent leur faiblesse, reconnaissent que toute leur habileté de marin ne leur servait à rien. Jésus voulait que les disciples se tournent vers lui, mais lorsqu'il n'agit pas de suite aussi, car il sait qu'il n'était pas encore prêt à recevoir sa réponse. Comme nous, bien souvent, quand les épreuves durent, ça signifie aussi que le Seigneur a encore du travail et qu'il nous prépare encore justement à sa réponse. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à nous voir souffrir, hein. Il ne prend pas plaisir à nous plonger dans l'angoisse, à ce que notre cœur soit triste, bien au contraire. Mais il faut l'avouer aussi, nous sommes bien souvent moins sensibles à la bonté de Dieu quand tout va bien, quand la vie nous sourit. Pour voir l'étendue de sa bonté, il nous faut souvent mûrir, à travers les épreuves. Il nous faut voir Jésus à l'œuvre dans nos vies. Il nous faut nous approcher intimement de lui. On ne peut pas rester loin de lui et lui demander de tout gérer. Et les tempêtes, les épreuves, aussi dures soient-elles, sont là pour cela, pour montrer nos faiblesses, nous mettre à nu devant le Seigneur, nous montrer que nous avons besoin de lui. Et le Seigneur a bien souvent aussi besoin de déconstruire pour construire. Sans cela, d'ailleurs, nous ne laisserions pas faire. Notre orgueil prendrait le dessus et on ne le laisserait pas agir. Les épreuves nous apportent la patience. Dans Romains 5, versets 3 et 4, il est écrit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, ou la patience en fonction des versions. » Donc l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Alors, la persévérance donc inclut la patience, mais j'aime bien aussi parce qu'elle apporte en plus et elle nous encourage à continuer les efforts. Et elle nous encourage parce que ça va porter un jour ses fruits, même si aujourd'hui on n'a pas l'impression que le fait de persévérer peut-être nous aide, il faut le faire. Et les épreuves sont là justement aussi pour affermir notre foi, ce dont nous avons bien besoin. Que dit d'ailleurs Jésus dans ce texte, après s'être levé, après avoir été réveillé ? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Encore une fois, il s'adresse à qui ? Aux disciples. À des hommes qui ont déjà fait preuve d'une grande foi. Ils ont quand même tout quitté pour le suivre. On peut lire dans Matthieu 4, verset 18 aussi. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Est-ce que ça, c'est pas sans attendre, voilà, sans demander un délai de réflexion ? Tout comme aujourd'hui, ils l'ont suivi dans la barque, est-ce que c'est pas déjà un acte de foi ? Si aujourd'hui je vous disais, mais allez, abandonnez tout, venez avec moi, suivez-moi, je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais c'est pas grave, est-ce que vous le feriez comme ça, sans condition ? Je l'avoue, je ne pense pas pour ma part. En tout cas, ça serait très difficile. Et pourtant, donc, Jésus remet en cause, en quelque sorte, la foi de ses disciples. Les disciples, encore une fois, croyaient en Jésus, puisqu'ils l'ont suivi, mais mis à l'épreuve face à la tempête, leur foi cède devant la peur. Ils ont peur alors que Jésus est là, mais donc, où est leur foi ? Oui, tous, nous avons besoin de lui. Et si les disciples eux-mêmes avaient besoin de lui, d'autant plus, nous aussi, nous en avons besoin. Donc, où est donc notre foi ? Cette question, Jésus nous la renvoie aussi quand, devant les tempêtes de notre vie, nous nous angoissons en oubliant que lui, le Seigneur, est là et qu'il fera finalement tout concourir à notre bien. Et ce questionnement de Jésus est important car la foi ne consiste pas à dire, encore une fois, « je crois quand tout va bien », mais bien à dire « je crois et je te fais confiance quand tout va mal ». Et ne pensons pas que, parce que nous sommes chrétiens, la vie sera un long fleuve tranquille. Alors oui, nous sommes sauvés par le sang de Jésus, nous avons cette espérance, mais non, cela ne nous affranchit pas des épreuves. Au contraire, parce que nous suivons Jésus, nous traverserons des tempêtes. Le diable laissera les tempêtes, ou nous attaquera en tout cas pour nous confondre, pour nous faire douter justement. Et on pense aussi, souvent à tort, qu'en tant que chrétien justement, nous n'avons pas le droit de douter. Pas le droit d'avoir peur. Encore une fois, Jésus est là, donc on le sait, donc pourquoi craindre? Pourquoi être triste? Est-ce qu'on a le droit? Ben, on ne devrait pas. On a sa parole, on a tout. Mais les disciples nous le montrent, encore une fois ici, Jésus est avec eux. Pourtant, ils ont peur, ils doutent aussi. Nous restons des hommes, des femmes, affranchis du péché, sauvés par le sang de Jésus, mais encore une fois des hommes et des femmes avec des faiblesses, avec donc des doutes, des questions, et cela est normal. L'important à retenir, c'est que même dans ces moments-là, le Seigneur ne nous laisse pas seuls et il nous vient en aide si nous le lui demandons. C'est ce qu'il va faire, là, le Seigneur Jésus va calmer la mer, la tempête, le vent. Et de plus, il n'attend pas, une fois qu'il a posé cette question, mais Jean de peu de foi, pourquoi avez-vous peur ? Il n'attend pas que les disciples fassent un travail sur eux-mêmes et que leur foi remonte. Non, il les aide tout de suite, après. Ils se sont confiés en lui, en lui demandant de les sauver. Alors, Dieu se révèle par et en Jésus. Et le grand calme revient, l'épreuve se termine. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, on peut lire aussi « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Ce verset nous montre le retour du calme aussi dans nos vies. Et avec aussi une chose importante, c'est « après que vous aurez souffert un peu de temps ». Donc oui, les épreuves, les souffrances ne dureront pas toujours. On peut avoir parfois l'impression en période difficile que c'est sans fin, que c'est de pire en pire. Mais non, Dieu nous le promet, ces périodes ont une durée limitée. C'est une durée qui peut, il faut l'avouer quand même, représenter plusieurs années, parfois même presque une vie entière, en tout cas sur Terre. Mais cela n'est rien comparé à l'éternité à venir. Notre frère Jérémie nous avait déjà montré, je crois, à 2-3 reprises, une illustration aussi de cette vie terrestre en comparée à la vie avec Christ. Demain, la vie éternelle. Il avait pour cela pris une corde, je ne sais pas si vous vous rappelez, où il avait mis du scotch au bout, sur l'une des extrémités, c'était vraiment petit, qui représentait notre vie terrestre. Tout le reste de la corde, en imaginant plus que celle-ci soit infinie, était notre vie avec Dieu demain. Et ça doit nous encourager. C'est que ces épreuves, elles ne dépasseront jamais ce petit bout-là de cette extrémité de corde. Une fois ce petit bout passé, la paix, le calme sera là. La délivrance arrivera toujours, soit dans la vie sur terre, effectivement, soit via la mort de nos corps et l'arrivée au royaume de Dieu avec notre Seigneur. Avant de conclure ce partage, je vais encore m'arrêter quand même sur deux mots qui étaient présents dans la dernière phrase donc de ce passage. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Les mots en question sont saisis d'étonnement. Cette dernière réaction des disciples m'avait un peu interpellé en lisant le texte, parce que donc les disciples donc ont suivi Jésus, ont accepté de suivre Jésus, ont pu assister à plusieurs miracles déjà avant ce passage, avant ce moment dans la barque. Ils ont vu des guérisons de malades, des lépreux, Ils ont eu des démons qui ont été chassés, comme à Capernaum. Ils ont, même si peut-être leur foi était, avec la peur était petite, ils ont quand même demandé à Jésus de les sauver, donc c'est qu'ils croyaient qu'ils en étaient capables. Et maintenant qu'il agit, maintenant qu'il le fait, qu'il les sauve, ils sont étonnés. Étonnés du fait qu'il intervienne, du fait qu'il arrive à calmer cette tempête. Mais comment croyait-il qu'il allait pouvoir les sauver? En prenant le gouvernail, le contrôle de la barque, et en les amenant tranquillement, justement, à travers les vagues, jusqu'au port? Non. Les disciples n'avaient simplement pas encore compris réellement qui était avec eux et qui était Jésus et quelle était l'étendue de sa puissance. Alors ne les jugeons pas, hein, n'oublions pas que nous avons aujourd'hui la parole, tout l'enseignement du Seigneur, eux ne l'avaient pas. Tout n'avait pas été révélé encore, tout n'était pas encore accompli en Jésus. Et déjà nous, avouons-le, nous avons bien du mal à comprendre tout le mystère de Dieu, malgré sa parole à notre disposition. Alors comment aurait-il pu faire? Comment aurait-il pu deviner, envisager ou deviner vraiment l'étendue de la puissance de Dieu? Et donc par cette intervention de Jésus, par cet étonnement, ça nous montre aussi deux choses. D'abord que Jésus répond toujours aux appels, mais aussi que sa réponse n'est pas toujours celle que nous pourrions imaginer. La vision de Dieu, son plan pour chacun de nous, est bien plus large que notre vision, que ce que nous pourrions nous-mêmes imaginer. Notre esprit ne peut envisager voir que des solutions terrestres. Là où Jésus agit avec la patience, avec la puissance de Dieu, il peut donc bien plus. Oui, Jésus voit toujours plus loin, il nous demande de faire de même. Et il nous faut mettre le moment présent justement dans sa main, dans la main de Dieu, en étant sûr qu'en toute chose, Dieu travaille pour notre bien. Que quelle qu'elle soit d'ailleurs, la réponse de Jésus sera toujours la meilleure pour nous. Et pour cela, il faut être prêt aussi justement à ce qu'il nous surprenne. Mais alors, une question aussi pour terminer. Dans quelle situation êtes-vous aujourd'hui? Peut-être que tout va bien pour vous, peut-être que ce n'est pas le cas. Et si tout va bien, si aujourd'hui vous avez l'impression d'être épargné par les épreuves, je vous invite quand même à ne pas vous laisser endormir pour autant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand tout va bien, on oublie un peu la bonté du Seigneur aussi. On ne la voit pas autant dans nos vies parce qu'on pense que nos forces suffisent. Et pour autant, il vous faut aussi nous préparer pour justement le jour où ces épreuves ou des épreuves arriveront. Car on rencontrera tous des périodes difficiles. Et nous avons tellement encore de choses à apprendre du Seigneur, tellement de choses qu'il veut encore nous enseigner, que forcément il faut s'attendre à ce qu'à un moment, il nous brise peut-être, pour justement nous travailler, nous transformer, nous façonner. Donc on doit se préparer à cela, pas pour encore une fois nous baser sur nos propres forces jour J, mais pour être capable de nous souvenir justement que même dans ces moments difficiles, nous ne serons pas seuls, Jésus sera avec nous. Mais peut-être qu'au contraire, les épreuves sont déjà là, que le tourbillon des épreuves est déjà là, que la tempête est déjà là. Peut-être qu'on n'en voit pas la sortie, peut-être que vous n'en voyez pas la sortie si ça vous concerne aujourd'hui. Peut-être que vous n'en comprenez pas le sens, que les questions pourquoi sont présentes en ce moment. Je vous invite alors à persévérer avec le Seigneur, à rester près de lui, à vous approcher toujours plus de lui. Il vous donnera la force, la patience, l'espérance pour sortir victorieux de ces moments. Pour que même dans ces épreuves, sa gloire resplendisse et que vous puissiez témoigner de lui. Et dans la grâce du Seigneur, même la prière la plus faible trouve une réponse lorsqu'il estime que cela contribue à notre bien et à sa gloire. Et donc c'est bien beau tout cela, hein, toute cette théorie, mais comment faire en vrai, encore une fois, vous avez le droit de me le dire, parce qu'on a beau entendre tout cet enseignement, on a beau être d'accord avec tout cela, on a beau savoir que Jésus est là, encore une fois, nous avons beau savoir qu'il nous veut du bien, que nous ne sommes jamais seuls, mais comment faire pour s'en souvenir, pour voir sa lumière quand la nuit nous entoure? Comment le trouver quand nous sommes aveuglés par la souffrance, par d'autres difficultés? Je n'ai pas de solution miracle mis à part. La seule que je peux vous proposer, c'est prier, prier, prier. Et le Seigneur vous entendra, vous répondra. Et ce n'est pas là un conseil théorique, prier, mais bien un conseil pratique qu'il faut mettre en pratique, que nous devons chercher à appliquer, quel que soit le niveau de notre foi du jour au jour de notre détresse. Peut-être que ce jour-là, notre foi a baissé. Mais n'oublions pas et prions comme l'ont fait les disciples. Ça ne veut pas dire que tout ira mieux tout de suite, ça ne veut pas dire que tous les problèmes vont disparaître d'un seul coup, comme par magie. Ça peut être long, le processus du Seigneur est parfois long pour nous. Mais il connaît chaque chose, il a prévu un temps pour tout, et y compris pour ses épreuves, encore une fois. Et ce que je peux aussi vous inviter, frères et sœurs, c'est d'être attentifs entre nous. Car si nous le sommes, nous arriverons aussi peut-être à voir si quelqu'un, si notre frère, notre sœur, notre voisin a besoin d'aide, est en souffrance, s'il a besoin d'être soutenu, d'être écouté. Parce que c'est aussi ce que le Seigneur nous demande en tant qu'Église, c'est d'être là pour notre prochain, de nous exhorter les uns les autres. Alors oui, soyons prêts à résister, à traverser ces épreuves avec le Seigneur, en priant, en plaçant notre confiance en lui, et ne sous-estimons jamais la puissance de Dieu. Je vais finir avec un dernier verset qui nous montre aussi le comportement à adopter, justement. Jacques, chapitre 5, versets 13 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alors oui, puissions toujours nous rappeler, au cœur de nos tempêtes, que le Seigneur est là et qu'il ne nous abandonne pas.